Cette légende du football mondial est décédée à 60 ans d'une crise cardiaque en 2020. S'ouvre un procès à l'issue incertaine qui promet de raviver l'émotion intacte des Argentins pour ce joueur adulé.
Merci Cécile Mérieux.
RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour.
Auquel vous pouvez participer direct@rcf.fr, direct@radionotredame.com, en présence de Paul Suger, normalien, journaliste au Figaro, Père Arnaud Alibert, rédacteur en chef au journal La Croix. On va parler de la Roumanie. Que se passe-t-il en Roumanie? C'est assez inédit dans l'espace européen. Une élection annulée, un candidat bloqué dans son ascension éclair qui a commencé sur les réseaux sociaux. Calin Georgescu était crédité de 40%, semble-t-il. Alors, l'élection est reportée au mois de mai, mais il est parti de 2%, il est crédité de 40%, et ça a été bloqué par la commission d'investiture, la commission électorale roumaine, une décision qui a provoqué de violentes protestations de ses partisans, des manifestations, et qui manifeste aussi la tension entre l'Occident et la Russie, qui est soupçonnée d'ingérence. Les deux sont un petit peu soupçonnés d'ingérence dans cette histoire, à la vérité. Père Arnaud Alibert et Paul Suger. Paul, vous reprenez sur le sujet.
Pour ce qui est de la Roumanie, effectivement, il n'y a pas de soupçon, mais il y a effectivement une réalité avérée du côté européen, c'est qu'il y a une intervention, et la France d'ailleurs en est, enfin en tout cas les institutions françaises en sont solidaires, pour peser de tout le poids que l'Europe peut sur une élection en disant on ne laissera pas la Russie manipuler cela. Alors que la Russie, c'est plus compliqué, c'est à mon avis toute la difficulté de l'affaire, c'est-à-dire que les rapports qui ont été présentés, les articles de presse qui les ont repris, en réalité ne donne pas une vision extrêmement précise, claire et factuelle de ces tentatives d'ingérence de la part des autorités russes ou de je ne sais quel proxy qui serait affilié au régime de Moscou. Et donc dans cette affaire, l'Union européenne, elle, avance à découvert, en toute transparence, et donc ne fait pas mystère de son engagement pour essayer d'empêcher l'élection politique roumaine d'être manipulée par une puissance étrangère et adverse, alors que l'implication des Russes est pour le coup beaucoup plus mystérieuse, beaucoup plus brumeuse. Et c'est à mon avis cette asymétrie-là qui fait du tort. Je crois que la crise que nous traversons...
Qui fait du tort à qui ?
Et qui fait du tort à l'Europe et qui fait du tort à ceux qui justement veulent protéger l'indépendance et la souveraineté des nations européennes. La crise que nous vivons à l'intérieur même de nos démocraties, parce qu'en France on a des débats similaires, on voit bien qu'il y a une partie de l'opinion qui est assez réticente par exemple au discours du président de la République sur le réarmement et qui fait suite à la façon dont les États-Unis se sont désengagés de la défense européenne et celle de l'Ukraine en particulier, on voit bien qu'il y a une réticence de l'opinion qui révèle en réalité, à mon avis, moins une forme de confiance aveugle dans la bienveillance des Russes à notre égard, que surtout une défiance extrêmement forte à l'égard du président de la République, c'est clair. Quoi que dise Emmanuel Macron, pour une partie de l'opinion, il aura de toute façon tort et la vérité sera le contraire de ce qu'il dira, mais une défiance à l'égard de nos institutions et à l'égard de l'Union européenne en particulier. Et donc, pour en venir au dossier roumain, la difficulté donc consiste, je crois, à essayer de résorber cette asymétrie en disant que, au fond, s'il y a des raisons valables, par exemple, d'empêcher la présentation d'un candidat, il faut que cela soit donné clairement. S'il y a des renseignements précis qui permettent de dire, voilà comment est-ce que les Russes ont manipulé une élection, c'est pas simplement en disant, on a des soupçons sur une campagne sur TikTok, parce qu'au fond, ça paraît dérisoire que pèse une campagne avec quelques vidéos TikTok dans une élection de cette ampleur-là, vous voyez. Donc je pense qu'il y a vraiment cet effort-là qui doit être fait, si la commission électorale en Roumanie, si les institutions européennes, si les partenaires occidentaux de la Roumanie veulent tenir jusqu'au bout sur cette élimination donc du candidat d'extrême droite, il va falloir présenter des preuves plus consistantes à l'opinion pour que ça ne tourne pas ce qui est en train de se faire à un débat au fond sur pour ou contre ces institutions européennes qu'une partie de l'opinion considère comme elle-même corrompue. Vous voyez, c'est ça qui est en train de se jouer et je crois qu'aujourd'hui on ne dispose pas des clés suffisantes pour pouvoir comprendre vraiment ce qui se joue en Roumanie.
Le crédit de l'Union européenne se joue, Père Arnaud Alibert, en Roumanie quand même.
Oui, en fait, on est sur une situation qui est extrêmement grave. Je fais un pas de côté, c'est toujours dangereux, mais ça met un petit peu de relief dans notre débat.
Tout dépend si il y a un précipice à côté.
Voilà, en fait, je pense interrompre un processus électoral, c'est toujours c'est un acte grave, mais c'est surtout, souvent, la veille d'une crise encore plus grave. Et l'exemple que j'ai en tête, donc c'est là où je fais un pas de côté un peu risqué, c'est en Algérie, puisque l'interruption du processus électoral a conduit à ce qu'on appelait la décennie de plomb et de sang, on pourrait dire aussi. Donc voilà. Donc Je pense que là, tous les voyants doivent être rouges parce que la Roumanie, c'est l'OTAN, la Roumanie, c'est l'Union européenne. Donc c'est quand même... c'est un pays dont on est proche en France parce que c'est un pays latin. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, et ce que je pense qui est important, c'est de regarder, remettre la chronologie, parce que dans la chronologie, il y a un élément qui apparaît récemment. Novembre 24, cet homme qui n'était pas connu, Calin Georgescu, arrive en tête du premier tour des élections présidentielles en Roumanie. Je rajoute simplement que l'élection présidentielle en Roumanie est importante, est au suffrage universel, mais le président a moins de pouvoir que le président français. Je ferme la parenthèse. Mais c'est quand même un élément important. Là, le président en place, Klaus Ioannis, donc, interrompt le scrutin, et en février, le 10 février, il annonce sa démission parce qu'il a conscience que ce qu'il a fait n'est pas possible. En fait, il voulait se maintenir à son poste jusqu'à la nouvelle élection. En fait, il a démissionné. Donc, c'est, je pense, le président du Parlement qui a pris le pouvoir par intérim. Donc, on est déjà dans une situation politique qui est complexe. Et s'ajoutent à cela les mouvements populaires, alors tout à fait légitimes, des électeurs de ce Calin Georgescu. Donc évidemment, donc ce qui est documenté, c'est l'implication des services russes qui ont manipulé l'opinion. Les bulletins, moi je sais pas, mais l'opinion, ça c'est assez clair.
Mais comment peut-on l'évaluer, père?
Parce que
le propre d'une campagne électorale, c'est de manipuler l'opinion. Pardonnez-moi, mais si je suis un peu direct, mais tout le monde manipule ou essaie de convaincre, de persuader.
Voilà, mais je pense que c'est là où il faut qu'on apprenne dans notre jeu démocratique à nuancer entre, en tout cas à distinguer ce qui est de l'ordre de la conviction. Donc je mets en avant des éléments vrais et je les hiérarchise. Donc quand je suis à gauche, je dis je ne hiérarchise pas les valeurs ou les éléments de les faits de la même manière que quand je suis à droite, pour simplifier le débat. Alors que la manipulation met en avant des éléments qui sont partiellement faux, voire qui ont l'intention de tromper le jugement. Et en l'occurrence, le récit russe sur la crise ukrainienne est un récit trompeur qui manipule l'opinion. On prend simplement la simple idée que Poutine dit « Nous avons répondu à une attaque ». Alors que, objectivement, je pense que dans 1000 ans, on continuera à dire que le premier pas a été accompli.
Mais ça a pesé dans l'élection roumaine.
Oui, parce qu'en fait, on voit bien que de la part du pouvoir russe, la Roumanie est un élément clé. Pourquoi ? Parce que dans l'agenda de Poutine, il y a le retour de l'OTAN à ses frontières d'avant 92. Or, la Roumanie était cotée par pacte de Varsovie. Donc, dans l'agenda russe, la Roumanie doit se tourner naturellement, alors pas sous forme de domination territoriale russe, mais d'alliance militaire, au moins, si c'est pas avec les Russes, au moins neutralité, ce qui n'est plus le cas. Donc, juste, je rajoute un dernier élément. C'est qu'aujourd'hui, quand on dit... Enfin, on ne peut plus dire que Calin Georgescu, c'est le camp pro-russe, et que nous, Européens, on est le camp occidental de la démocratie avérée, et que donc, arrêter pour pouvoir faire vivre la démocratie en Roumanie. Parce que est arrivée l'élection de Trump et la prise de parole ou la prééminence de Elon Musk, qui, avec le vice-président Vance, en fait, soutiennent, mais de manière incroyable, en tout cas tout à fait inouïe, Calin Georgescu. C'est-à-dire que eux, qui sont quand même arrivés au pouvoir aux États-Unis, qu'on le veuille ou non, par un processus démocratique, donc qui incarnent encore ce que nous pensons être la civilisation européenne démocratique, eux viennent au soutien de Calin Georgescu. Et donc ça complexifie complètement
ce qui explique l'attitude de la commission électorale, donc
mais du coup ça explique surtout que on ne sait pas dans quel sens ça va. Enfin, pour moi, je pense qu'on ne sait pas dans quel sens ça va aller, parce que s'il y a des personnes qui en Roumanie se réclament de la démocratie américaine pour dire nous voulons que Calin Georgescu soit présent à l'élection présidentielle, ça va créer des tensions extrêmement fortes en Roumanie.
C'est une déclinaison du trumpisme, en fait, à la roumaine, à la balkanique, un petit peu la Roumanie.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ce qui se joue en Roumanie a beaucoup plus de résonance au fond. D'ailleurs, vous avez très bien précisé la faible prise du président de la République en Roumanie sur la politique intérieure de son pays. C'est la conséquence de la situation internationale. Là où le président de la République en Roumanie a un pouvoir très important, c'est en termes de décision militaire au sein de l'OTAN. Et puis, il y a aussi la question de l'Union européenne, ce qu'essaye de faire la zone d'influence pro-russe, c'est de casser l'unanimité ou la très relative unanimité d'ailleurs, parce que la Hongrie déjà était un petit peu en contre-pied par rapport à ce que faisaient les autres ses alliés européens, mais de casser l'unanimité des nations européennes sur la question diplomatique, stratégique, et donc notamment sur le réarmement face à la Russie. On voit bien donc que là, ce qui se passe en Roumanie est évidemment, comme c'est toujours le cas dans des zones de frontières finalement entre deux pôles d'influence, extrêmement important pour la suite. Voilà. Maintenant, je crois que c'est assez juste, et le père Libère a raison de le rappeler, de dire que les ingérences ou les influences ne viennent pas d'un seul endroit. Moi, je m'étonne un petit peu parfois de la surréaction de bon nombre de personnes qui, au nom d'un patriotisme un petit peu nouveau, ou en tout cas qu'on ne leur avait pas toujours connu, se sont émus, par exemple, du discours de J.D. Vance à Munich, qui sermonnait les Européens dans une forme, effectivement, d'adresse aux nations européennes, particulièrement proche de ce qu'on peut appeler de l'ingérence. Ces mêmes personnes qui poussent aujourd'hui des cris d'orfraie s'émouvaient beaucoup moins, par exemple, lorsque Barack Obama et ses amis avaient eux-mêmes un discours apporté aux nations européennes, intervenaient eux-mêmes dans des processus électoraux en disant leurs préférences. En réalité, les États-Unis ont toujours été très proches de ce qui se passe en Europe, et j'ai l'impression que la dénonciation de cette proximité et de cette façon dont notre allié outre-Atlantique s'immisce parfois dans la vie politique et les débats internes, est à géométrie variable en fonction de l'affinité qu'on a ou pas avec la classe dirigeante au pouvoir, et donc de la couleur politique du président américain. Voilà. Je n'ai aucune sympathie pour J.D. Vance et Donald Trump lorsqu'ils humilient des chefs d'État européens. On l'a vu à plusieurs reprises, on l'a vu dans la façon dont on a fait patienter les Polonais devant le bureau ovale pour à la fin n'obtenir que quelques minutes d'entrevue avec Donald Trump. On l'a vu évidemment devant les caméras du monde entier avec Volodymyr Zelensky. En revanche, vouloir tout de suite y voir de l'ingérence sans voir qu'en fait, de toute façon, c'est quelque chose qui est consubstantiel à la façon même dont les États-Unis font de la politique étrangère depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça me semble un petit peu curieux. Il y a de toute façon un conflit d'influence. Vous disiez assez justement qu'une élection, c'est toujours l'affrontement entre plusieurs machines de propagande, et c'est celle qui est la plus forte qui gagne. Les Européens assume de plus en plus ouvertement d'être une de ces influences, et effectivement ce qui se jouera en Roumanie, c'est de savoir laquelle est la plus forte. Je me méfie un petit peu de l'usage immodéré du droit européen, du droit national en l'occurrence avec les décisions de la Cour constitutionnelle Roumanie, de la Commission électorale, parce que ces institutions juridiques sont déjà...
Il y a encore une décision
de dernière instance qui doit tomber. Mais vous voyez, ces institutions juridiques sont déjà très fortement discréditées dans une partie des opinions. C'est le cas en France, on l'a vu, avec un certain nombre de polémiques entourant par exemple les décisions du Conseil constitutionnel. Et effectivement, jeter corps d'âme ces institutions dans des querelles d'influence, c'est donner l'impression qu'elles ont choisi leur camp.
Moi, j'ai l'impression que l'une des raisons, c'est que la donne militaire a changé. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui était du soft power américain en Europe, là, je suis complètement d'accord avec vous, il a toujours eu lieu c'est encore plus visible en Amérique du Sud pendant des années. Donc, voilà, il n'y a aucun problème là-dessus, les États-Unis ne sont pas blancs. Mais aujourd'hui, la donne a changé sur le sol européen, et on voit bien que la question roumaine, en fait, il suffit de regarder la carte de l'Europe, cache la question moldave. Et la question moldave, je pense qu'on y reviendra un jour, la Moldavie, c'est un petit pays aux confins de la Roumanie qui abrite une région qu'on appelle la Transnistrie, qui est russophone, dont les habitants majoritairement appellent à l'union ou l'unité avec la Russie de Poutine. Et donc, c'est un élément de fragmentation de ce petit pays. Et si ça devait être le cas, alors ça serait en fait l'ensemble de la carte, de la géographie en fait, de l'Europe qui serait sur la table et susceptible de bouger. Et c'est en ce sens-là que ça devient une crise existentielle pour l'Europe.
Le prochain Donbass.
Héritage, ouais, héritage des découpages staliniens.
Ouais, et on ne parle même pas de
sur l'enclave. Sur les nationalités, de... Staline était quand même assez pervers.
Voilà. Et puis, et puis il se posera aussi, bientôt, un jour, la question de Kaliningrad, cette enclave russe coincée entre les États baltes et la Pologne.
Dernier voilà, point donc... que je vous pose juste cette question, ouais, parce que Kalin Georgescu était crédité de 0 ou de 2% au départ. Ouais. Il est aujourd'hui de 40%, ce qui est quand même considérable,
eh oui,
alors que la Roumanie est aux frontières de la Russie, que la Roumanie par le passé, si on se fie à ce qu'était le conducteur Nicolae Ceaușescu, a joué aussi sur sa différence avec la Russie. Normalement, les Roumains devraient quand même marquer une forme de différence aussi avec la Russie, comme ils l'ont eu par le passé. Et si la Russie était vraiment une menace pour eux, ils ne donneraient pas 40% à Georgescu, non, d'intention de vote. Vous voyez, on a l'impression qu'ils ne prennent pas du tout acte des avantages qu'ils ont à être dans l'OTAN et à être protégés. Paul Sugy, c'est comme s'il voulait passer, si on suit, hein, si jamais Georgescu est élu, c'est comme s'il voulait passer sous un autre drapeau ou une autre influence.
J'aurais pas une interprétation aussi maximale que la vôtre, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que en Roumanie, comme ailleurs, il y a une partie des opinions qui ne veulent pas de la guerre.
On n'imagine pas en Pologne l'équivalent qui vote pour un candidat pro-russe.
La Pologne a cette différence-là qu'elle n'a jamais complètement cru en réalité dans l'OTAN et qu'elle a organisé depuis longtemps déjà sa propre défense. Et effectivement, des pays qui se sont abandonnés trop rapidement ou trop facilement à la protection américaine, qui découvrent aujourd'hui ou qui redécouvrent à quel point en réalité cette protection est fragile et dépend du bon vouloir de l'opinion américaine qui est elle-même fluctuante, qui d'ailleurs ne sait pas toujours très bien ce qu'elle veut, bien ces pays-là, si une partie de leur opinion a davantage peur de la guerre que du changement de pavillon, comme vous dites, effectivement, c'est ce qui se traduit ensuite dans les sondages électoraux.
Moi, je suis d'accord. En fait, les 40% de Kalin Georgescu ne sont pas des 40% pro-russes. Ce sont des votes de gens qui sont plutôt qui s'expriment contre l'Occident, en fait, contre en fait la mainmise de Bruxelles, de tout ce qu'on de tout ce qui est fantasmé derrière le mot Bruxelles et Europe. Et donc, et ils disent au fond, nous avons le droit d'avoir notre propre récit sur ce que nous vivons. Et le fait que Musk et J.D. Vance leur disent, ben en fait, vous avez raison de parler. En fait, ils se tournent vers les États-Unis en disant, ben, rendez-nous venez à notre secours pour que nous puissions remettre la main sur l'histoire de notre patrie. Donc, c'est moins pro-russe que pro-Roumanie dans une version ultra-nationaliste.
Ça pose la question de la désirabilité de l'Union européenne,
oui,
dont la Russie peut profiter
complètement.
Alors que normalement, on fuyait à l'ouest avant quand même. On fuyait vers l'ouest, on fuyait vers l'est. C'est quand même étonnant.
Il serait bien plus confortable de se retrouver dans la situation qu'on connaît aujourd'hui si l'Union européenne, si les institutions politiques de façon générale dans nos pays n'avaient pas alimenté une défiance si forte. Vous voyez. On retrouve ces débats-là aussi à l'intérieur même de la société française et le discrédit qui a été jeté sur le pouvoir et sur les institutions qu'il représente, effectivement, je pense c'est notre principal handicap et on le voit bien dans la façon dont Emmanuel Macron aussi, par exemple, a du mal à faire entendre la parole présidentielle, même lorsqu'elle devrait acter une forme d'unité ou de sursaut national.
Et justement, puisque vous parlez de parole, on va parler de celle de l'Église avec Mgr Antoine Herouar. Avec la guerre en Ukraine, l'Europe est devant son propre destin. Vice-président de la Commission des Épiscopats de l'Union Européenne, la COMECE, c'est une institution qui est assez peu connue, mais qui joue de son influence auprès des institutions européennes, justement, dont nous parlons. Mgr Antoine Herouar, archevêque de Dijon, insiste sur le danger que représente l'agression russe en Ukraine pour l'Europe. La paix, souligne un minimum de justice, sinon elle n'est qu'un répit avant la reprise du conflit. Et donc se pose la question de savoir comment l'Église peut jouer de son influence sur ce terrain, sachant que le pape François, même s'il va mieux, est dans une période où le Vatican ne peut pas trop faire entendre sa voix. Est-ce que, Père Arnaud Alibert, Mgr Herouar donne quelques pistes dans cette période difficile, incertaine?
Eh bien,
je renvoie à l'interview dans La Croix.
Oui, merci. Antoine Herouar, en fait, vient reprendre comme des éléments par rapport à ce qui est une inquiétude légitime que nous devons avoir sur la situation. Il endosse quand même le cri du peuple ukrainien. Il raconte qu'il est allé en Ukraine et que même à Lviv, qui est donc très à l'ouest, la guerre est une réalité. C'est-à-dire que dans notre interview, et en fait, ça sert à ça, les interviews, ça sert à faire connaître au grand public que la guerre en Ukraine, c'est pas simplement la guerre au Donbass, c'est l'ensemble du pays qui est meurtri, qui dit nous avons perdu des territoires, nous avons perdu des installations électriques, énergétiques, nous avons perdu des maisons, des villes, etc. Et ça, à la limite, c'est pas grave. Ce que nous avons perdu, ce sont des êtres humains. Nous avons perdu. Et donc, il raconte cette balade, si j'ose dire, dans le cimetière de Lviv, où, accompagné d'Ukrainiens, ils disent, là, c'est mon étudiant, là, c'est mon enseignant, mon collègue qui est enterré. C'est-à-dire qu'en fait, il nous met en face d'une douleur d'un peuple ukrainien qui, parce qu'il a tant souffert, ne pourra pas accepter des conditions de paix qui seraient dictées de l'extérieur de la peine. En fait, on pourrait, en filigrane, retrouver à la grande pensée de Paul Ricoeur, ce philosophe protestant, qui dit, en matière de mal, on ne peut pas penser la souffrance de l'extérieur de la souffrance. Celui qui parle légitimement de la souffrance, c'est celui qui l'éprouve. Donc, il faut écouter le peuple ukrainien qui dit sa souffrance et qui c'est en fait au nom de cette souffrance là que les conditions de la paix, c'est-à-dire de la justice pour une paix durable, seront édictées.
Mais cette souffrance rend la situation irréversible d'une certaine façon, c'est ça que vous voulez dire. On ne peut pas reculer, c'est terrible aussi.
Alors la souffrance ne pourra jamais être effacée, mais elle rend plus exigeante Les négociations qui doivent avoir lieu maintenant. Et donc, on voit bien, on rentre dans un cycle de négociations. Il y a aujourd'hui en France Emmanuel Macron qui, comme chef des armées, rassemble 30 chefs d'état-major. Demain, c'est à Riyad les premiers pour parler. Donc, on rentre dans une phase de négociation tout sans qu'il y ait de cesser le feu sur le terrain. Mais c'est bien là, c'est bien maintenant le fait de parler qui va ouvrir un chemin de sortie pour l'Ukraine.
Paul Sugis, sur ce que dit Mgr Antoine Herouard.
Il y a une évidence depuis le début de cette guerre, c'est que c'est une guerre que fratricide en Ukraine. Ce sont des chrétiens qui combattent et qui tuent d'autres chrétiens. C'est ce qui a rendu la parole de l'Église, on l'a vu, très, très difficile à ses débuts. On a vu aussi l'implication très forte en Russie de l'Église orthodoxe qui s'est compromis gravement avec le pouvoir et qui, je crois, a probablement abîmé l'image, probablement très naïve d'ailleurs, que l'on avait jusqu'à ici d'un Vladimir Poutine allié objectif du christianisme, défenseur de la bonne morale. Je crois que les églises détruites ou incendiées en Ukraine et les boucheries commises par les soldats russes ont terni très très durablement cette image. Voilà. Et je crois que c'est là que la parole de l'Église est comme toujours attendue, c'est de montrer cette absurdité innommable de la guerre. Je suis un peu moins emballé, je le confesse, vous ne répéterez rien à Mgr Herouard, par les bribes d'analyse qu'il donne sur ce conflit, parce qu'en réalité l'Église n'a pas grand-chose à en dire. En revanche, sur la sollicitude et la proximité avec toutes les victimes de ce conflit, effectivement, la parole de l'Église, plus que jamais, est importante. Et je crois qu'on aura besoin de méditer ces prochains temps, surtout en ces temps de réarmement, justement, où la question de la guerre se pose avec de plus en plus d'insistance dans nos sociétés qui se croyaient un petit peu à l'abri. À méditer justement sur ce que c'est que la guerre et la paix et ce que c'est que le juste prix de la paix. En réalité, on se souvient peut-être seulement maintenant qu'il n'y a pas de paix sans force, il n'y a pas de paix sans violence. Et voilà, on va peut-être reméditer de nouveau sur ce que c'est aussi qu'une guerre et qu'une paix juste, et ça va nous renvoyer à des débats anciens et absolument passionnants au sein de la pensée chrétienne sur ces grandes questions de l'existence humaine.
Père Arnaud Alibert.
Ouais, je rajoute un élément, ce qui est fort dans l'interview d'Antoine Herouard, c'est peut-être moins évidemment la nouveauté de son propos de géopolitique, parce qu'en fait, il reprend les éléments que nous connaissons, puis il a commencé à émettre plusieurs avis, donc on n'est pas surpris par sa position aujourd'hui. Non, ce qui est fort, c'est qu'il acte en fait le renversement d'alliance, c'est-à-dire que l'autorité spirituelle qui est la sienne, qui est de parler au nom de l'Église, prend comme un fait historique qu'aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus l'allié inconditionnel de l'Europe et que donc l'Europe est face à elle-même. Donc là, il le dit en tant que vice-président de la Comissée, l'Europe est face à elle-même pour assurer sa propre sécurité. Donc on a vraiment là un observateur de premier rang qui annonce en fait cette ère nouvelle dont tout le monde parle en disant mais maintenant l'Europe doit se défendre par elle-même, et ça c'est impressionnant.
Ça n'absout quand même pas l'Église de façon générale d'un certain nombre de paradoxes. Vous voyez par exemple la condamnation maintes fois répétée par le pape François de la détention de l'arsenal nucléaire par les grandes puissances dans le monde, et dont on apprend, enfin dont on comprend en même temps que c'est aussi ce qui va peut-être continuer à nous protéger durablement, surtout si la France est amenée à étendre sa protection nucléaire à ses alliés européens. C'est ce qui nous protège durablement aussi de la guerre.
Alors c'est à ce moment-là que on voit qu'il est nécessaire pour l'Église de repositionner son langage, son propos sur l'actualité, et peut-être être capable, avec une pédagogie qui va pas être simple, de redire les éléments d'éthique pure, parce qu'il y a, on peut avoir des idéaux de non-conflictualité et donc de non-détention d'armes, y compris d'armes nucléaires. Mais ensuite, dans le cadre d'une éthique en construction, parce que l'éthique n'est pas un horizon de sens, c'est aussi un art de vivre le réel.
Vous m'avez un peu perdu là.
L'éthique aujourd'hui nous demande d'avoir des principes de réalité, c'est ça. Donc,
il n'en parle pas du nucléaire directement.
Non, il n'en parle pas parce que justement c'est en train de se construire.
Ouais. C'est un vrai sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir aussi, notre rapport à l'arme nucléaire. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Paul Sugy, journaliste au Figaro. Et merci au père Arnaud Alibert, rédacteur en chef au journal La Croix. Le débat du jour tous les matins entre 9h et 10h. Merci beaucoup de votre fidélité. On retrouve à présent Melchior Gormand qui vous accompagne. Bonjour Melchior.
Bonjour Louis, bonjour à toutes et à tous. Dans un instant, je pense donc j'agis. On va parler des oiseaux migrateurs ce matin. Un phénomène qui passionne, qui intrigue aussi beaucoup les scientifiques, mais même les simples observateurs. On va en parler, on va essayer de décrypter ce phénomène avec nos deux invités dans un instant. Et puis avec vos appels en direct, puisque le standard est ouvert, on attend vos réactions, vos questions d'ailleurs, si vous le souhaitez, au 04 72 38 20 23 dans le groupe Facebook de l'émission. Je pense donc j'agis. Ou par mail à direct@rcf.fr. À tout de suite.